Radio01.net vous présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission portera sur le jeu indépendant Bread, sorti sur plateforme de téléchargement XBLA, PSN, Steam, et il sera comparé à d'autres jeux de plateforme en deux dimensions, dont Super Mario Bros.
Première partie, présentation et problématique.
Bread. Ai-je besoin d'en dire plus ici concernant ce jeu ? Sorti en 2008, ce titre issu de l'esprit de Jonathan Blow a depuis lors divisé et la critique et les joueurs. Certains y ont vu une œuvre majeure de l'histoire du jeu vidéo, pleine de qualité et d'intelligence. D'autres, un jeu à la pompe dérangeante qui s'amuse, comme qui dirait, à poéter plus haut que son cul. Il ne sera point question ici de faire le procès de ce jeu, en bien comme en mal. Et si je fais partie, sans m'en cacher, de ses admirateurs, ce n'est sans doute pas pour les raisons que l'on songe. J'éliminerai alors d'office la question de la portée artistique que Bread a ou aurait. À dire vrai et pour dire les choses rapidement, je ne trouve pas plus d'artistique ici que dans Super Mario Bros. Je vais alors m'intéresser uniquement au versant purement ludique de Bread et je délaisserai les implications, réelles ou supposées, du scénario du jeu ou, plutôt, je vais partir du twist de la fin du jeu et rester uniquement dans l'univers de la diégèse. Celles et ceux qui seraient intéressés quant aux multiples lectures, métaphoriques, allégoriques, politiques du scénario, peuvent aller vers l'article que j'ai composé sur Gros Pixel et qui donne, je me plais à le croire, quelques clés permettant de mieux comprendre ses ambitions poétiques. Je tiens à préciser dès à présent que, compte tenu de ce qu'il va suivre, l'émission révélera des moments cruciaux de l'intrigue du jeu. Si vous espériez le découvrir par vous-même le cas échéant, je ne saurais ici faire mieux que de vous encourager à le faire. L'histoire de Bread se présente, de prime abord, comme une réécriture de Super Mario Bros. Un héros, ici du nom de Tim, est dépêché dans un pays imaginaire afin de libérer une princesse qui a été enlevée par un monstre. Les références à ce schéma médiéval de la demoiselle en détresse sont nombreuses. Que ce soit le premier niveau du monde numéroté 4, qui est en réalité le troisième monde, je reviens à cela dans un instant, qui esthétise le premier stage de Donkey Kong, ou ces châteaux qui scandent la fin de chaque monde et où un dragon nous annonce que la princesse est, je cite, « dans un autre château », Bread se présente, de prime abord et à sa surface, comme une reprise impressionniste d'un des plus célèbres jeux de plateforme du média. Tim possède dans sa besace le pouvoir de remonter le temps afin de l'aider dans sa quête. Ceci, associé au phénomène temporel qui s'illustre dans chacun des mondes, tel le dédoublement dans 5 ou l'anneau qui ralentit le temps dans 6, lui permet ainsi d'atteindre le dernier monde du jeu, 1. Dans ce niveau, le temps s'écoule à l'envers. La conséquence se produit avant la cause. Le monde est court, heureusement quelque part, tant il peut être dérangeant pour nos esprits cartésiens. C'est en arrivant alors dans le dernier niveau que le twist dont je faisais état plus haut se révèle alors. L'écran de jeu est divisé en deux parties et ce, horizontalement. En bas, Tim. En haut, la fameuse princesse qui s'enfuit devant ce qui ressemble à un chevalier en armure. Alors que les amants courent vers la droite de l'écran, la princesse aide Tim à se frayer un passage en actionnant divers mécanismes. Mais, à la fin du niveau, le joueur semble être dans une impasse. La princesse dort confortablement dans son lit, tandis que Tim l'observe sur son balcon. le joueur est alors invité, une fois dernière, à remonter le temps. C'est alors que l'on se rappelle de la particularité de ce monde. Le temps s'écoule à l'envers. De là, le « remonter », c'est effectivement le faire se dérouler de façon normale. L'on comprend alors que la princesse ne cherchait pas à retrouver Tim, mais à le fuir pour être sauvée par le chevalier. Et que les mécanismes qu'elle actionnait n'étaient pas destinés à l'aider dans son parcours, mais bien à l'empêcher de la retrouver. Tim est l'odieux monstre qui cherchait à enlever la princesse. Si l'on pousse les choses plus loin encore, l'on comprend que l'intégralité de l'aventure s'est déroulée, pour nous, à l'envers. Plutôt que de créer l'échelle menant au monde 1, là où tout commence effectivement, ce qui explique pourquoi le premier monde traversé par le joueur n'est pas intitulé 1, mais bien 2, Tim l'a détruit pour empêcher la princesse de s'enfuir avec son sauveur. Au lieu de tuer les boss, il les ramène à la vie pour bloquer la progression des futurs héros. Et plutôt que de récolter les pièces de puzzle et de les assembler, il les disperse aux quatre vents, créant ainsi une forteresse impénétrable à quiconque. Braid, si on peut dire les choses ainsi, est un jeu entièrement rétrospectif, qui nous propose une aventure à l'envers, comme si on commençait un repas par le cognac pour le finir par l'apéritif. Quelque chose cependant se doit d'attirer notre attention. Replaçons-nous un instant dans le cadre de la diégèse. Si l'on suit l'aventure de Tim à l'envers, cela signifie alors que le premier monde traversé par le joueur est, en soi, le dernier traversé par Tim et inversement. Si l'on considère alors l'une des règles les plus importantes des jeux narratifs, qui veut que la difficulté va augmentant au fur et à mesure des niveaux et des mondes, nous serions face à une contradiction. Le niveau le plus facile serait le dernier, alors que le plus difficile serait le premier. Le twist, qui aura donné ses lettres de noblesse au jeu, était pourtant bel et bien annoncé par plusieurs indices auparavant, tels les discours des dinosaures à la fin de chaque monde et les livres sur l'utrin qui inaugurent ces derniers, les deux mettant en doute, au fur et à mesure, le bien fondé de la quête du héros et l'existence même de la princesse. Et, je me plais à la croire, également par la courbe de difficulté du jeu lui-même. Je vais en tout cas essayer de montrer cela et répondre ainsi à notre problématique du jour. En quelle mesure la narration de Braid influence-t-elle de façon directe le signe difficulté du jeu?
Deuxième partie, un regard structuraliste sur le jeu de plateforme.
De tous les genres que le jeu vidéo peut compter, la plateforme en deux dimensions est sans doute celui que j'apprécie le plus et celui que je considère comme étant le plus représentatif du média dans son ensemble. Il existe effectivement comme une pureté qui en fait le parangon du vidéoludisme dans son ensemble. Cela est dû notamment à une apparence de simplicité qui en fait tout son charme. Si je reprends la théorie des jeux que j'ai mise en avant lors de la dernière émission sur Link's Awakening, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo se définit par un espace, un objectif et des règles, il convient d'observer que dans le cadre d'un jeu de plateforme en deux dimensions comme Super Mario Bros, Sonic, Limbo et dans une moindre mesure Braid, ces trois pôles se confondent miraculeusement. En effet, l'espace de jeu, d'une simplicité extrême, nous oblige à aller sur la droite de l'écran, ce qui est également l'objectif. Et les obstacles que l'on doit outrepasser sont, pour cela, des règles, puisque l'on indique clairement là où on peut marcher et là où on ne le peut point. Super Mario Bros. A compris tout cela avant les autres, sans doute. En donnant des picots sur les ennemis que l'on ne peut piétiner, tels les plantes piranhas ou les spinies, en demandant un déroulement strict de l'ère de jeu et en faisant même en sorte que Bowser soit traité comme un obstacle comme un autre et récompense le joueur s'il parvient à le dépasser, au contraire du Bowser de Super Mario Bros. 3 qui, à l'image du jeu et de son scrolling bidirectionnel, oblige le joueur à revenir sur ses pas pour vaincre l'odieux dragon taureau, Super Mario Bros. Est, peut-être, l'un des jeux les plus purs que l'on ne pourra jamais trouver, non seulement dans son genre, mais également dans l'absolu. Pour résumer, le jeu de plateforme, plutôt que de diviser les pôles espace, objectif, règle en trois entités distinctes, comme le font par exemple les RPG dits à la japonaise, Final Fantasy et consorts, tend au contraire à les unifier. Il est en cela le plus immédiat et le mieux compréhensible des genres de jeux, et je gage, du moins je suppose, qu'il est l'endroit idéal pour faire découvrir le média à de jeunes enfants. Cependant, il me faut faire ici deux remarques. D'une part concernant ce que j'ai appelé plus haut l'apparence de la simplicité, d'autre part concernant l'idée que simplicité n'est pas facilité. Tout d'abord, ce que j'appelle l'apparence de la simplicité est la tendance du jeu de plateforme à modifier de façon plus ou moins prégnante, de façon plus ou moins prononcée, les concepts d'espace, d'objectifs et de règles. Pendant longtemps, cela a été l'espace qui a été modifié, tout en gardant ce principe fondateur de ligne claire. L'espace est étendu sur sa gauche et sa droite, puis en hauteur et même en profondeur parfois. Ensuite, ce sont les règles qui ont été distordues, en ajoutant des passages secrets, des raccourcis, en privilégiant la vitesse à l'esquive. L'objectif, cependant, est ce qui résiste le plus au jeu de plateforme. En effet, celui-ci étant intrinsèquement lié à l'espace et aux règles, il ne peut se distordre sans entraîner une reconfiguration parfaite de ses éléments. Bread, et c'est là le point de notre émission, réussit, à mon sens, à faire cela. Ensuite, cela est de l'ordre du rappel, mais il peut toujours être bon de le faire. Ce n'est pas parce qu'un jeu de plateforme est simple qu'il est facile. C'est par ailleurs une critique récurrente faite par les philistins qui considèrent qu'un jeu comme Super Mario Bros. Est réservé aux enfants du fait de la pureté de sa ligne. Mais les joueurs, les vrais, savent que bien que ce titre ne soit pas parmi les plus durs de l'existence, arriver au bout du monde 8-4 est un tour de force agréable qui n'est pas à la portée des premiers pouces venus. Et effectivement, les jeux de plateforme de nous le rappeler. Plus la partie avance, plus le jeu se doit d'être difficile. Cependant, et à cause de cette unité et de cette simplicité structurelle, la difficulté ne peut apparaître que sur l'espace de jeu, et non dans ses règles, qui ne peuvent magiquement changer du tout au tout, et dans ses objectifs, qui demeurent les mêmes de long en long. Ainsi, les développeurs vont-ils faire varier le nombre d'ennemis, leur résistance, et augmenter le nombre de pièges. Pour reprendre Super Mario Bros., il est ainsi intéressant d'observer l'évolution de ces marches qui précèdent le mât de fin de niveau, l'escalier étant initialement bien formé, puis, au fur et à mesure, des blocs disparaîtront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un unique piédestal, haut placé, et qui demande beaucoup d'ingéniosité de la part du joueur pour l'atteindre. Tout ceci pour dire que si Bread désirait être un jeu de plateforme rétrospectif, ce qu'il est incidemment par l'intermédiaire de son objectif, qui n'est plus sauver la princesse mais bien enlever la princesse, et de ses règles, non plus collecter les pièces de puzzle mais les éparpiller, il se doit de l'être par l'essence même de son espace et, de là, de sa difficulté. Et l'espace de Bread, comme nous allons le montrer à présent, est distordu ô combien et prend les choses, comme le reste, à rebours.
Troisième partie, la charrue avant les bœufs.
Lorsqu'on observe les six mondes de Bred, il est frappant de constater que le pouvoir de Tim de remonter le temps permet aux développeurs de proposer une version rétrospective de la difficulté dans un jeu de plateforme. En effet, si cette capacité temporelle permet de prime abord de récupérer les pièces de puzzle en se servant notamment de ces plateformes scintillantes imperméables au retour dans le passé, elle élimine surtout une notion que l'on croyait gravée dans le marbre, le game over et le principe de mort en général. Et effectivement, en obligeant le joueur à perpétuellement remonter le temps au moment où il se prend un coup mortel, le jeu élimine par essence le moment où il faudra au joueur arrêter de jouer. Seule sa propre volonté lui permettra de quitter la partie et non pas l'acquaintance heureuse d'un rendez-vous important et de la dernière vie perdue. Cette absence est inculquée aux joueurs dès les premières minutes du jeu, car faisant partie intégrante du gameplay lui-même. De là, il n'aura plus à se confronter à cette lourdeur, même s'il fera des erreurs par la suite. Il saura comment les gérer. Mais il y a plus encore. Les premiers niveaux du premier monde sont construits, de façon à ce que le joueur qui découvre le titre pour la première fois, et même qui s'amuse à refaire des parties par la suite, ne puisse faire autrement que mourir à un moment donné. Même si l'on ne joue pas les règles du jeu, c'est-à-dire si l'on ne cherche pas à réunir les pièces de puzzle et que l'on se contente d'aller à la fin du niveau en cours, on sera confronté, dans le premier monde du jeu, à une longue descente dans un puits garni de pics qu'il est impossible d'éviter la première fois. En proposant ainsi un piège inévitable, même pour un habitué, le jeu propose là une difficulté que normalement seul un joueur aguerri saurait surmonter et qui ne se rencontrerait dans un jeu de plateforme habituel que dans les derniers niveaux, lorsque la maîtrise de la manette devient une obligation. Au fur et à mesure de la progression du joueur et, paradoxalement, selon les normes d'un jeu de plateforme habituel, Bred devient de plus en plus facile, ou, du moins, place de moins en moins d'obstacles sur votre parcours, et il devient de plus en plus facile d'atteindre la porte située tout à la droite d'un niveau en particulier. Les pouvoirs que Tim peut alors exploiter pour se faire semble, de plus en plus et si cela était encore utile, lui faciliter davantage la tâche. Dans 4, le monde n'avance que si le personnage fait de même, les pièges ne s'activant donc qu'au moment où le personnage évolue et ceci se positionne de façon à toujours le laisser passer sans mal. Dans 5, le dédoublement du personnage permet en quelque sorte de voir avant de le commettre effectivement, la distance d'un saut ou l'effet d'une action quelconque. Enfin, dans 6, Tim est en possession d'un anneau qui ralentit le temps, ce qui est un don exceptionnel que plus d'un joueur échouant encore et encore dans Super Mario Bros. Rêverait de posséder. Autrement dit, l'aventure de Tim, telle qu'on est amené à la vivre effectivement, semble prendre sa difficulté à rebours et propose une aventure de plus en plus facile, du moins si l'on prend la chose comme un jeu de plateforme habituel à la Mario. D'ores et déjà, avant même que le twist de l'aventure ne soit révélé, le joueur pouvait avoir l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il allait, pour ainsi dire, à l'envers. Si l'aventure de Tim est rétrospective, cela se voit effectivement dans la courbe même de la difficulté du jeu, qui épouse parfaitement sa narration.
Quatrième partie, le superflu et le nécessaire.
Bred distord donc parfaitement l'espace du jeu, en accord avec ses règles et ses objectifs, cela se voyant dans sa courbe de difficulté. Si l'on persiste alors à considérer que ce titre est une reprise de Super Mario Bros., un autre élément peut nous amener, à produire la même analyse. Intéressons-nous alors, de façon plus précise, à la collecte des pièces de puzzle. Si nous filons notre comparaison, nous pouvons rapprocher cette collecte d'éléments situés en dehors du chemin tracé d'un jeu de plateforme habituel, des quêtes annexes que les développeurs nous proposent parfois, à l'image de ce que l'on rencontre dans la série des New Super Mario Bros. Avec les pièces étoilées, soit un objectif secondaire, loin des nécessités demandées pour terminer le niveau en cours, et qui n'a comme seule utilité de débloquer des niveaux secrets permettant de prolonger l'expérience du jeu. Dans Braid, la collecte des pièces de puzzle est, évidemment, l'arc-boutant du gameplay et l'un des objectifs du jeu. Cet objectif, évidemment, est dévoyé par le caractère rétrospectif de l'aventure. Tim cherche non pas à rassembler les pièces, mais à les éparpiller, ce qui explique que l'on puisse entrer dans ces mondes avant que les tableaux ne soient complétés, à l'inverse de ce qui se passe dans Banjo-Kazooie, par exemple, mais également par le fait que ces pièces soient placées en dehors du chemin balisé. Ce qui est alors, traditionnellement, un objectif annexe, devient un objectif primaire et, inversement, atteindre l'issue du niveau en cours est finalement très secondaire. Lors de la dernière émission de la première saison, j'évoquais la présence étrange de boss dans Braid. Un jeu aussi en dehors des sentiers habituels qui utiliserait ce symbole on ne peut plus commun. Même Limbo s'en passait où, du moins, et s'il faisait de l'araignée géante un boss, la mettait en scène, en faisait un élément de gameplay à part entière, bref, cherchait à en faire quelque chose d'autre qu'un simple obstacle devant une impasse. Puisque je parle ici de la difficulté, il est bon de revenir alors un instant sur les deux boss que le joueur affrontera le long de sa partie. Deux énigmes, notamment, se doivent ici d'être résolues. D'une part, pourquoi affronte-t-on à deux reprises le même boss de la même façon, en lui faisant tomber des chandeliers sur la tête, même s'il y a une once de variation dans le monde 5 par l'intermédiaire du doppelganger? Et d'autre part, de façon plus directe, qu'apporte la présence de ces boss dans la courbe de difficulté du jeu? Pour répondre à la première question, il me semble de façon assez évidente que la répétition à l'identique du même boss est, encore une fois, une référence à Super Mario Bros. Où le plombier affronte, ad nauseam, la même forme de Bowser à la fin de chaque niveau X4. La variation que j'ai évoquée à l'instant renverrait même à celle observée dans ce jeu fondateur où le roi des Koopas lancera des marteaux, à l'instar des frères du même nom, à partir du monde 5. À nouveau, remarquons la coïncidence amusante. Bowser lance des marteaux à partir du monde 5, Tim réaffronte le boss avec une variation dans le monde intitulé 5. On peut encore poursuivre la comparaison en considérant que la méthode choisie pour tuer et les boss dans Braid et Bowser dans Super Mario Bros., du moins concernant ce dernier, la méthode plébiscitée par les joueurs et la plus connue aujourd'hui, est d'utiliser un élément du décor, un chandelier ou une hache, et non le contact physique traditionnel et attendu de la part du joueur. Nous retrouvons de plus ici la théorie que j'avais élaborée concernant les boss dans les jeux de plateforme qui sont devant une impasse et qui créent un sentiment d'unheimlich dans Super Mario Bros. En annonçant la présence de Bowser loin auparavant, sa rencontre véritable par l'intermédiaire de ses boules de feu, dans Braid, en proposant un adversaire d'une taille certaine et dont le cadavre restera sur l'aire de jeu après sa défaite, ce qui est logique puisque Tim doit en réalité le ressusciter. La seconde énigme concernant la présence des boss en eux-mêmes est un peu plus délicate à résoudre. Outre le fait que Brad distord le schéma de Super Mario Bros. En ne présentant non pas un boss à la fin de chaque niveau, mais dans deux mondes seulement, et pas même dans les derniers niveaux de ceux-ci, dans le 3-7 qui compte 8 niveaux et le 5-6 qui en compte 7, il convient de remarquer que le nom donné aux deux niveaux est identique, l'air. Le joueur qui, la fois première, a affronté le premier boss sait à quoi s'attendre la seconde fois. En annonçant ainsi ce qui se produira, Brad, en réalité, ne fait pas du boss un obstacle majeur ou signifiant une réussite quelconque, mais quelque chose, en réalité, de parfaitement annexe, encore une fois, qui ne conduit à aucune avancée significative. En voulant renverser le principe de difficulté, Brad fait en sorte de l'appliquer également aux boss qui ne sont rien d'attendu, ni en termes de confrontation, ni en termes de récompense offerte aux joueurs. Leur présence, comme tout ce qui ressort, croit-on, d'un jeu de plateforme habituel en deux dimensions, est dysphorique. Elle est là pour décevoir et emmener le joueur vers un autre chemin.
Cinquième partie, l'obscure clarté qui tombe des étoiles.
Brad est un jeu diabolique. Par ce terme, j'entends l'opposé de symbolique. Le symbolique, c'est ce qui, étymologiquement, est pris ensemble. C'est une marqueterie agréable où chaque pièce a sa place et son rôle. Le symbolique est la perfection, dans le sens où, comme le dit le poète, elle est atteinte lorsque plus rien n'est à enlever. Le diabolique, en revanche, c'est la séparation, l'à côté, ce qui ne convient pas. C'est Lucifer, le porte-lumière, c'est Prométhée. C'est la lumière qui éclaire les nombreux défauts. Et Brad, que ce soit dans ses objectifs, ses règles ou son espace, sa difficulté et ses messages tirent davantage du côté du diabolique, du moins c'est l'impression qu'il nous laisse. En se présentant, et je pense que c'est ainsi qu'il nous faut le prendre de prime abord, comme une énième variation de Super Mario Bros., il nous semble dire qu'on n'y trouvera aucune espèce de surprise. Allons, l'écran titre lui-même présente le nom du jeu et le personnage sur sa gauche, tout comme l'ancêtre Super Mario Bros. Mais, au fur et à mesure du jeu, tout finit par se distordre. Les variations et les altérations, d'abord minimes, s'accumulent tant et tant pour toutes se diriger, cependant, vers ce twist ignoble. Soudainement, tout prend sens. Tout était là, mais nous regardions par le mauvais côté de la raison. Nous nous croyions au sol, lorgnant les étoiles, alors que les étoiles nous toisaient. Et combattant les monstres, nous sommes devenus monstres nous-mêmes. On a dit beaucoup de choses sur Brad, et preuve s'il en fallait, on continue à en dire. En bien, en mal. Il fait penser, par bien des aspects, à ce potache qui griffonne sa copie de français le jour du bac, et se pique de faire du ronsard. Le correcteur le sacra quoi qu'il advient, et ce, même s'il y a dans ses lignes de vrais bouts de poésie, avec de francs morceaux de rhétorique. Ce jeu me fascine. Tous les ans ou presque, j'y reviens. Et je pense que l'on y reviendra encore à l'avenir. Brad n'est pas plus une œuvre d'art cependant que Super Mario Bros. Ou Rayman. Mettre l'un dans un sac, c'est tous les inclure. Il y a un avant et un après Super Mario Bros. Sans doute aucun. Il y aura-t-il un avant et un après-Bread, rien n'est moins sûr. Si tous les jeux de plateforme en deux dimensions, qui prennent une forme atypique, seront, sans doute, comparés à Bread par les rapides, les attentifs sauront qu'il faut revenir toujours non vers Tim, mais vers Mario. Et de la même façon que dans la Bible, ou Homère, se nichent tous les chefs-d'œuvre de la littérature, il y aura toujours un peu de Mario dans nos jeux de plateforme. En ouverture et pour conclure alors cette émission, je laisse cette remarque à votre réflexion. Bread serait à Super Mario Bros. Ce que l'Ulysse de Joyce est à Homère, une réécriture diablement moderne qui s'est tirée parti des quelques années et des expérimentations diverses qui les ont séparés tous deux.